France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, sitôt débarqué, sitôt embarqué, l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, qui tentait un retour à Moscou 5 mois après son empoisonnement, a donc été interpellé dès sa descente d'avion hier soir. Tollé dans les capitales occidentales. Nous serons à Moscou dès le début du journal, Agnès, après les autres titres.
La campagne de vaccination commence aujourd'hui pour les plus de 75 ans et ils sont au rendez-vous. Les séquelles du Covid-19 sur le cerveau de mieux en mieux identifiées. Nous serons en direct de Washington pour vivre ces cérémonies d'investiture sous haute tension. Et puis, que fait un joueur de tennis français confiné 15 jours dans un hôtel en Australie ? Réponse à la fin du journal.
Les invités d'Inter ce matin. À 7h50, Léa.
Oui, pas une semaine sans qu'on apprenne l'existence d'un nouveau variant angoissant du Covid. Le variant britannique, le sud-africain et maintenant le brésilien. Pourquoi sont-ils aujourd'hui le véritable ennemi ? Peut-on encore les contenir ? Gros plan sur les variants à 7h50 avec le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, expert à la Haute Autorité de Santé. C'est Jean-Daniel Lelièvre qui sera avec nous.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec l'ancien président du conseil de surveillance de PSA. J'ai nommé Louis Gallois. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Il a donc passé la nuit en prison. Alexei Navalny, arrêté dès sa descente d'avion hier soir, restera en détention jusqu'à la décision du tribunal, ont indiqué les autorités russes, sans annoncer de date. Un scénario qu'avait prévu le militant anticorruption, ennemi juré de Vladimir Poutine. Voilà ce qu'il disait hier soir, quelques minutes avant son arrestation.
Ici, c'est chez moi. Je rentre et tout le monde me demande si j'ai peur. Et je réponds, mais pourquoi devrais-je avoir peur ? Je n'ai pas peur. Et je vous demande aussi de ne pas avoir peur. Je vais au contrôle très tranquillement parce que je suis sûr d'avoir raison.
Et c'est effectivement au moment où Alexei Navalny s'est présenté au contrôle avec sa femme qu'il a été arrêté, officiellement pour non-respect des conditions d'exécution d'une peine avec sursis. Et pour cause, l'opposant politique a été hospitalisé durant 5 mois en Allemagne, après avoir été empoisonné. Un retour vu d'un très mauvais œil par les autorités russes qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour éviter que ce retour ne se transforme en manifestation de soutien. Correspondance à Moscou, signé Claude Brouillot.
Les aboiements des chiens policiers, les avertissements dans les haut-parleurs des aumônes, les unités anti-émeutes n'étaient que des leurres, destinés à laisser croire aux quelques centaines de sympathisants d'Alexei Navalny qu'il leur serait difficile d'apercevoir leur leader. Et pour cause, dès le départ, il était prévu que son avion serait dérouté vers un autre aéroport moscovite et que l'intéressé serait arrêté à l'écart de ses soutiens. Faut-il que Vladimir Poutine ait peur à ce point de son principal opposant ? S'interroge Sergueï Boïko, venu spécialement de Novosibirsk en Sibérie, où il dirige le collectif Navalny.
Nous comprenons que le système politique actuel fonctionne de telle façon qu'il ne respecte pas les gens. Le pouvoir peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent, par exemple, lui présenter une convocation pour comparaître devant un tribunal fin janvier. C'est vraiment difficile de prédire maintenant quoi que ce soit. Le Kremlin est devenu hystérique.
S'il s'appuie sur l'interdiction de tout rassemblement pour gérer la pression intérieure qui va faire suite à l'arrestation d'Alexei Navalny, le Kremlin, en revanche, passé sa rudesse habituelle, aura des difficultés à ignorer très longtemps les injonctions occidentales qui demandent sa libération. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
De Paris à Washington, en passant par Bruxelles et Ottawa, effectivement, la communauté internationale demande la libération immédiate d'Alexei Navalny.
Il est 7h04 en France, Agnès. C'est le jour J pour la vaccination des plus de 75 ans.
5 millions de personnes concernées, plus 800 000 personnes à risque, sans oublier les résidents des EHPAD et les soignants. Cela fait près de 6,5 millions de candidats à la vaccination, quand la France reçoit 500 000 doses par semaine. Alors qu'il est 422 000 personnes ont déjà reçu une première dose. Elle devrait être plus d'un million à la fin du mois. 833 centres sont opérationnels, dont celui installé dans le Palais des Sports de Gerland à Lyon, où s'est rendue Mathilde Naberti.
Pas de créneau disponible avant février pour se faire vacciner dans ce Palais des Sports reconfiguré. Soit près de 500 vaccinations par jour, mais ne parlez pas de vaccinodrome aux organisateurs. La prise en charge se fait dans de bonnes conditions, selon le docteur Gian Fatoum, responsable des vaccinations.
Donc la piste fait 2000 mètres carrés et le parcours vaccinal a été étudié pour que chaque étape respecte la distanciation sociale et assure un espace d'attente confortable parce qu'on accueille de plus en plus de personnes âgées.
Oui, on a plus de 75 ans et ça s'est passé parfaitement. C'est formidable. C'est la porte de sortie.
Des sourires derrière les masques chez ce couple lyonnais, chez Antoine aussi qui a emmené sa maman se faire vacciner, Josette, 84 ans.
Oh ben, mais j'étais bien d'accord parce que bon, je ne veux pas surtout embêter toute la famille parce qu'il y a tous des petits qui pourront venir me voir au moins.
Il y a encore des incertitudes, mais on sera quand même plus tranquille. Quoi. Puis elle pourra recevoir, elle pourra aller jouer à la blotte aussi, c'est important pour elle. Un minimum, un lien social.
Trois autres centres ouvrent leurs portes à Lyon aujourd'hui dans des hôpitaux. Environnement plus classique pour une piqûre que ce palais des sports au gradin de béton, sa buvette et ses panneaux de match, témoins du monde d'avant. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et en ce début de semaine, la tension reste forte dans les hôpitaux avec plus de 25 000 malades, dont 2766 en réanimation et un taux de positivité des tests en très légère hausse à 6,6%. Des patients qui souffrent de problèmes respiratoires, de perte de goût et d'odorat. Mais une étude internationale menée par plusieurs équipes de l'université de Yale confirme que le coronavirus a la capacité de s'attaquer aussi aux neurones. Alice Cachaner.
Émilie a contracté le virus en novembre dernier. Pas de fièvre, ni difficulté à respirer, mais une immense fatigue.
Il y avait des journées où je pouvais dormir 20 heures sur 24.
En plus de perdre le goût et l'odorat pendant un mois, la trentenaire souffre de troubles de l'attention.
Vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes, littéralement, c'est-à-dire que vous voyez faire des choses et vous avez la tête dans le brouillard, les pieds dans le coton, comme s'il y avait une latence, ouais, comme si vous aviez pris des substances, quoi.
Des symptômes qui pourraient s'expliquer par la capacité du virus à infecter nos neurones.
Là, chez les patients, ce qui a été vu, c'est qu'ils s'attaquaient beaucoup au tronc cérébral.
Nicolas Renier, chercheur INSERM à l'Institut du cerveau, il est l'un des auteurs de l'étude.
C'est une région du cerveau impliquée dans le contrôle de paramètres physiologiques importants comme l'attention, le goût, ce genre d'aspect-là en fait.
Et ce n'est pas la première fois qu'un virus respiratoire s'attaque au cerveau humain, note Nicolas Renier.
Il y avait eu beaucoup de patients qui avaient eu à l'époque des lésions cérébrales à cause de la grippe espagnole.
Reste à savoir désormais par quelle porte le virus pénètre le cerveau. S'infiltre-t-il par le bulbe olfactif et donc par voie aérienne, par circulation sanguine ou les deux ? Cela reste encore à vérifier.
La Covid capable de pénétrer dans notre cerveau, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Après plusieurs semaines de discussions parfois tendues, les dirigeants du Conseil français du culte musulman ont signé une charte des principes de l'islam en France. Charte qui acte la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, dont la laïcité et l'égalité homme-femme. Les dirigeants du Conseil français du culte musulman seront reçus à la mi-journée par Emmanuel Macron. Et puis c'est aujourd'hui que débute en commission à l'Assemblée l'examen du projet de loi contre le séparatisme. Direction les États-Unis à présent. Bonjour Grégory Philips.
Bonjour Agnès.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. La ville est en état de siège. 25 000 réservistes de la garde nationale sur le qui-vive pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden prévue mercredi, mais avec un premier rendez-vous dès demain, Grégory.
Oui, demain en fin d'après-midi, heure de la côte Est, première cérémonie avec un hommage national aux 400 000 victimes américaines du coronavirus et les cloches des églises vont sonner dans tout le pays. Mais le grand jour, évidemment, c'est après-demain, mercredi à midi, heure locale, Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment sur les marches du Capitole, à l'endroit même où se sont produits les événements du 6 janvier. Ils le feront devant quelques centaines d'invités seulement. Le public ne pourra pas se réunir sur le Mall, vous savez, cette grande esplanade en contrebas, et le public est invité à suivre la cérémonie à la télévision. Peu de temps après, Joe Biden, accompagné de trois anciens présidents, Clinton, Bush et Obama, se rendra au cimetière d'Arlington, de l'autre côté du fleuve Potomac, pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu et pour montrer évidemment l'unité du pays. Enfin, escorté par des militaires de chacune des armées, Joe Biden et son épouse Jill gagneront la Maison Blanche mercredi en milieu d'après-midi. Quant à Donald Trump, on le sait, il n'assistera pas à ces cérémonies. Première fois depuis 152 ans qu'un président sortant boude ainsi l'investiture de son successeur. Trump a prévu de quitter la Maison Blanche tôt mercredi matin avec une petite cérémonie militaire organisée sur la base d'Andrews, puis il décollera en direction de West Palm Beach en Floride pour gagner sa résidence de Mar-a-Lago, et Trump voyagera à bord de l'avion présidentiel Air Force One pour la dernière fois.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington. Et on suivra bien sûr ces cérémonies avec vous et avec l'ensemble des envoyés spéciaux de France Inter. C'est une véritable flambée des prix au niveau mondial. Plus 20% pour le blé, plus 30% pour le maïs, plus 40% pour les tourteaux de soja qui servent à nourrir le bétail. Des hausses qui s'expliquent par une forte progression de la demande des pays importateurs et par la peur de manquer. Avec Manuel Ruffès, des conséquences pour les agriculteurs français.
Pour ne prendre que l'exemple le plus parlant, la Chine, le pays a à ce jour importé 3 fois plus de maïs que l'année dernière, 10 fois plus de soja qu'il y a encore quelques années. Tout ça pour se mettre à l'abri de la moindre pénurie. Arthur Portier est consultant au cabinet Agritel.
Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Des incertitudes sanitaires, on les connaît, des incertitudes qui peuvent amener des problèmes logistiques avec certains blocages qu'il peut y avoir dans les ports. On l'a connu en Argentine, on l'a connu dans d'autres pays. Et aujourd'hui, des pays qui sont importateurs veulent sécuriser leurs stocks et leur alimentation. Et les stocks, les pays importateurs veulent les avoir chez eux et non pas à l'autre bout du monde, chez le vendeur.
Mais ces échanges mondiaux ont évidemment des répercussions très concrètes jusqu'ici en France. L'éleveur qui doit payer l'aliment de ses poules, cochons, vaches, 20, 30, 40% de plus, espère bien s'y retrouver en vendant un peu plus cher. Patrick Benesi, secrétaire général adjoint de la FNSEA.
Le problème, c'est que ce n'est pas forcément le cas et que la distribution, notamment, peine souvent et en tout cas ne joue pas forcément le jeu pour répercuter ça, et même, on peut dire, certains industriels. Donc ça peut être très problématique pour les productions qui n'arriveront pas à répercuter.
La période s'y prête, pourtant on est en pleine négociation commerciale entre transformateurs et distributeurs.
La Chine, dont la croissance pour 2020 s'établit à 2,3%, seule puissance économique majeure à avoir évité une contraction l'an dernier. Enfin, la vie confinée des joueurs de tennis à Melbourne. L'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année, débute dans 3 semaines. Le temps d'un isolement obligatoire de 15 jours avant de pouvoir s'entraîner, Covid oblige. Pierre-Hugues Herbert, 83e joueur mondial, s'est ainsi installé dans l'un des plus grands hôtels de Melbourne, où Fabrice Abgras a pu le joindre.
Pierre-Hugues Herbert est arrivé samedi à Melbourne et depuis, il est dans sa chambre d'hôtel sans possibilité de sortir. Son test Covid est certes négatif, mais il doit attendre maintenant l'autorisation d'aller s'entraîner. Alors l'Alsacien patiente dans sa chambre, devenue une prison dorée.
On a déjà reçu un avertissement, les joueurs, parce qu'il y avait certains joueurs qui ouvraient un peu trop facilement leurs portes de chambre. Ils ont déjà tout de suite été rappelés à l'ordre. Donc oui, on est complètement en détention.
En attendant, Pierre-Hugues Herbert est contraint de rester seul dans sa chambre, alors il s'occupe comme il peut.
En me réveillant à 4h30, j'avais encore la possibilité de communiquer avec ma famille et mes proches. Bah, j'ai fait ma première séance où j'ai un peu transpiré. Et ensuite, je pense que j'ai passé 2 ou 3 heures sur Netflix à regarder une série. J'ai regardé Lupin. J'ai lu aussi un petit peu.
L'organisation se charge de nourrir tous les joueurs, mais aucun d'entre eux dans l'hôtel ne maîtrise l'heure des différents repas.
Bah là, par exemple, je sais pas si t'as entendu, ça a toqué. Mais je pense que je viens de recevoir mon repas du soir. Il est 19h. Moi, je vais aller voir. Donc là, en fait, je viens de recevoir un sachet avec mon repas qui ont l'air d'être des pâtes. Je pense que je viens de recevoir des raviolis.
Durant 15 jours, Pierre-Hugues Herbert et tous les autres joueurs n'auront aucun contact avec le personnel de l'hôtel. À eux, durant 2 semaines, de laver leurs vêtements, ranger et nettoyer leur chambre.
Voilà, patience. Et dans 3 semaines, le tournoi débute.
Merci Agnès Soubiran.